Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la session numéro... Oula, alors je sais même pas, ça fait quoi? Ça fait presque 3 ans qu'on fait Positron, 2 ans et demi. Presque 3 ans, le premier c'était le 27 juin 2013.
Oh la vache!
Et c'était avec Jérôme d'ailleurs.
Ça nous rajeunit pas.
Ben non, clairement. Je suis Patrick Béja et la voix que vous venez d'entendre est celle de Jérôme Kainborg. Et l'autre voix que vous n'avez pas entendue, c'est celle de Timothée. Comment ça va, Timo?
Très bien, très bien.
Bon, deuxième session de cette deuxième épisode de cette session de Positron. Vous le savez, dans Positron, on vous recommande 3 trucs cool en 20 minutes. Et encore une fois aujourd'hui, on a des trucs vraiment cool. Donc ne perdons pas de temps, lançons-nous, Jérôme. Voilà.
Lançons-nous. Tu vois, t'es tombé, mais de loin.
Ouais, c'était un petit peu plus diffus. Et vous savez quoi? Je pense qu'on a été un petit peu trop sage, un petit peu trop gentil dans ces derniers épisodes. Donc, je vais ramener un petit peu de rébellion dans cet épisode de Positron avec une recommandation musicale que vous allez pouvoir découvrir tout de suite comme ça. Vous entendez, c'est bon?
Ouais.
Pas assez fort, c'est pas assez fort. Voilà. Et alors, les connaisseurs ont reconnu. Et là, on commence à bouger la tête.
Alors, est-ce que je peux décrire ce que je vois, Patrick? Est-ce que je vois Patrick danser sur son rap avec des cartons Picard derrière lui en plein déménagement? Ça a quelque chose d'absolument surnaturel. C'est une image que je ne pourrais jamais effacer de ma mémoire, je pense.
Très bien. Eh ben écoute, du coup, je vais couper la caméra. Donc, les experts l'auront reconnu. C'est un extrait de Wu-Tang Clan Ain't Nothing to Fuck With. Qui est l'un des titres phares de l'album Enter the Wu-Tang, du groupe The Wu-Tang, Wu-Tang Clan, qui est un groupe de rap de la côte Est du début des années 90, groupe absolument légendaire que j'écoutais dans mes jeunes années quand j'avais encore à peine 20-25 ans, et qui est resté l'un des souvenirs de cette époque du gangster rap où il y avait en fait une sorte de rivalité entre la côte Est et la côte Ouest. On avait du côté de la côte ouest des gens comme NWA, Cypress Hill, etc. De la côte est, c'était surtout Wu-Tang. Et il y a quand même... alors, le rap a beaucoup évolué depuis et je suis généralement pas du genre à me dire « Ouais, bon, voilà, c'était mieux avant, aujourd'hui, c'est n'importe quoi. » J'aime beaucoup le rap d'aujourd'hui. J'aime différents styles de musique, comme vous le saurez si vous avez écouté Positron. Mais... c'est pas du tout une condamnation du rap d'aujourd'hui, au contraire, mais c'est vrai que peut-être parce que je l'écoutais à l'époque, mais je crois pas, il y a une vraie qualité et une vraie spécificité au groupe Wu-Tang et à cette époque. Vous l'avez entendu, il y a beaucoup d'extraits de films d'arts martiaux en fait doublés en anglais aux États-Unis, qui sont très très mal doublés et qui créent une vraie mythologie de ce groupe Wu-Tang. On peut écouter un autre extrait par exemple, si je fais ça, voilà. And the Wu-Tang sword style. If what you say is true, the Shaolin and the Wu-Tang could be dangerous. Donc il y a ces extraits, donc ces samples de ces films, et puis après il y a un style musical qui est quand même, attendez je vais baisser un peu, un style musical qui est très reconnaissable, avec des sons très spécifiques. Attendez, je vais passer un petit peu plus en avant dans le... Alors, on revient au vote. Like a stun gun, I'm hectic, I'm wrecking with the quickness. Set it on the mic, On était dans cette époque du rap qui était beaucoup plus délibéré, c'était un petit peu plus lent, on n'avait pas un nombre de beats par minute incroyable.
C'était très structuré aussi à l'époque. Enfin...
Alors attendez, on va écouter un autre morceau encore, ça c'est Tears. J'ai envie de me mettre à chanter là, je vais vous épargner ça. Allez, encore un dernier extrait. On va prendre un dernier extrait. Tac, tac, tac.
Ah, là, c'est tout le tout du dernier album.
C'est le tout premier, ça.
Tout premier, d'accord.
Ouais. Ça aussi, le son est très spécifique et on le reconnaît tout de suite avec ses...
Ça ressemble pas mal quand même à De La Soul de la même époque, avec un côté beaucoup plus badass dans les paroles.
C'est ça.
Mais la rythmique, c'était très De La Soul aussi.
Ah, c'est un petit peu ça, c'est De La Soul badass en fait.
Ouais.
Moi, mes références sont un peu différentes.
Attends, excuse-moi, une seconde, je vais couper le son. Hop. Ouais, pardon, Timo, tu disais
que moi, ça me fait penser plus à du Gorillaz et à la BO de Samurai Champloo, un animé sur des samouraïs, mais avec une énorme ambiance hip-hop. Et là, les passages que tu mets, ça me fait tellement penser à certains épisodes que c'est assez drôle comment ça a dû, enfin, que Wu-Tang, ça a dû influencer cet animé, parce que y a des trucs, c'est limite du copier-coller, quoi.
Ah oui, c'est intéressant, j'ai jamais regardé Samurai Champloo, mais c'est sûr que Wu-Tang, comme je disais, Wu-Tang côte Est, NWA côte Ouest, et c'est la fondation du rap moderne, quoi. Ils ont complètement défini les 15 années à venir qui n'ont changé. Bon, je suis pas un historien du rap, mais je pense que l'explosion suivante dans le rap, ça a été Eminem et son rap de blanc, quoi.
Mais sans m'y connaître non plus, il y a des groupes actuels qui reprennent ce style-là, mais en disant que c'est de l'old old school, justement.
Oui.
Enfin, il y a un retour à... Ça fait toujours mal quand t'entends que les trucs que t'as entendus quand t'étais jeune sont old school, maintenant.
Bah, c'est sûr que là, on a eu... Bah, c'est des classiques, quoi, c'est ça.
Ouais,
et on a des gens, effectivement, enfin, il y a plein de gens qui ont fait évoluer le rap après. Je parlais de Eminem, mais il y a... Missy Elliott avec... ah, merde, son producteur. Oh là là, quelle honte.
Je suis pas très bon, moi, en nom.
Timbaland, Timbaland. Enfin, il y a Busta Rhymes qui a beaucoup accéléré. On parlait de rythme, qui a beaucoup accéléré le rap. Enfin, il y a plein de choses qui se sont passées, mais vraiment, Wu-Tang a établi avec leurs collègues de l'époque, c'est cette base qui a, sur lesquelles d'autres ont construit. Donc, c'est pas étonnant qu'on retrouve les influences, effectivement, ailleurs. Donc voilà, Enter the Wu-Tang, c'est un album absolument fondateur qui est peut-être un petit peu plus difficile à écouter aujourd'hui parce que il est peut-être un peu trop simple, je sais pas. Mais je serais curieux si vous êtes amateur de rap, enfin à vrai dire si vous êtes vraiment amateur de rap, vous avez forcément écouté Wu-Tang, mais peut-être si c'est pas le cas, écoutez 2, 3, 4 fois et dites-moi ce que vous en pensez parce que je serais curieux de savoir ce que ça donne pour quelqu'un qui n'a pas grandi avec quoi. Donc voilà, c'est Enter the Wu-Tang du groupe The Wu-Tang Clan et c'est un album que je recommande plutôt aux fans. Jérôme, de quoi nous parles-tu ?
Eh bien, je vais vous parler de Versailles. Si Versailles m'était compté, non, pas du tout. On n'est pas dans les vieux documentaires français un peu poussiéreux sur Versailles. Là, c'est le Versailles 2015, série franco-canadienne. Et alors ? Premier choc quand vous allez regarder le premier épisode de Versailles, la série est en anglais. Mon Dieu, Louis XIV en anglais, c'est une catastrophe. À moi l'Académie, à moi la France, d'entendre des noms français qu'on connaît de nos livres d'histoire prononcés en anglais. Le premier abord est assez brutal et on a une réaction un peu épidermique. C'est un peu notre histoire qui nous est pillé par ces anglo-saxons. Et moi, je dois confesser avec un certain énervement qui est qu'aujourd'hui, notre histoire est mieux racontée par les Anglais que par nous-mêmes. C'est-à-dire que nous, on a quand même un creuset d'histoire, ne serait-ce que Versailles, immense, et on n'arrive pas à faire une série correcte sur notre histoire.
Mais c'est franco-canadien, c'est quand
mais
même...
Mais c'est franco-canadien, voilà. C'est quand même... Il y a des Français hein, dans l'histoire. Ça a bien été tourné à Versailles et dans plein de châteaux qu'il y a en France. Alors... Je le dis tout de suite. Versailles est à l'histoire de France ce que les Tudors est à l'histoire anglaise. C'est-à-dire, c'est gros romancé. Il s'inspire.
Ah, tu veux dire la série, d'accord.
Oui. C'est très romancé, c'est très sublimé. Vous pouvez aller voir sur YouTube, il y a plein d'historiens qui vous font des cours là où la série Versailles se trompe. C'est chiant comme la pluie d'ailleurs quand ils vous racontent ça. Mais voilà, c'est une série, on va dire presque rock'n'roll. Le générique, ce n'est pas du tout la musique de Lully. C'est de l'espèce de techno ambiante avec un générique très chiadé. Le roi est juste magnifique. Avec des cheveux qui coulent jusqu'au sol, hyper bien coiffé, alors que Louis XIV était quasiment chauve à 28 ans. Enfin voilà, on est dans la romance historique absolue. Les Tudors, je sais pas si vous avez suivi cette série, mais c'était une série, il fallait la regarder pour le côté bluette, mais absolument pas pour le côté historique. Mais là où je suis pas d'accord avec les historiens qui s'acharnent sur la série Versailles, je trouve que Versailles retranscrit bien le fantasme de Versailles. Justement, Versailles était le Walt Disney de l'époque pour la noblesse. Le roi Louis XIV avait rassemblé la noblesse qui l'avait terrorisé pendant son enfance avec la Fronde, l'avait rassemblé dans un espèce de parc d'attractions pour les nobles, où tout était sublimé. C'était un grand théâtre, en fait, un théâtre des vanités. Et finalement, cette série retranscrit bien une vraie réalité de l'ambiance Versailles, où tout est sublimé, tout est censé être beau, mais derrière le phare et derrière les perruques et derrière la poudre se cachaient des odeurs de moisie, du sang, des complots, des meurtres. Alors bien sûr, tout est exagéré, mais la série a quand même pris soin de s'inspirer alors soit de faits historiques réels, soit d'hypothèses historiques. Vous savez que l'histoire n'est pas quelque chose de figé, les historiens continuent à avoir des hypothèses historiques. Notamment dans cette série, vous allez voir, il y a une histoire d'une bâtarde métisse. Ça s'inspire quand même d'une hypothèse historique. C'est pas forcément une réalité, mais c'est une hypothèse. Par contre, il y a des choses, on se dit, mais où est-ce qu'ils sont allés chercher ça? Et c'est des réalités quand même historiques. Par exemple, le frère du roi, monsieur, comme on l'appelait, a bien été élevé comme une fille pour pas qu'il développe des attributs masculins qui le mettraient en compétition avec son frère. C'était une vraie volonté de Richelieu, si je ne me trompe, d'avoir éduqué. Donc, il est devenu homosexuel notoire et son compagnon qu'on appelle chevalier a vraiment existé. Donc ils font pas n'importe quoi non plus avec l'histoire, simplement voilà, ils l'exagèrent pour rendre la série intéressante avec des meurtres, des coucheries, des scènes de cul, du sang, des complots, etc.
Donc on apprend que Jérôme estime que l'éducation rend homosexuel. Très bien,
non,
merci.
L'éducation, non, non, tu n'as pas écouté ce que j'ai
non,
dit.
Mais
il a été élevé comme une fille. Ah oui, non, tu veux.
Oui, parce que voilà.
Ben, oui, en tout cas, ça, on va dire, ça a contribué. On sait que monsieur, comme on l'appelait, venait au bal habillé en femme.
Oui.
Puisqu'on l'avait habillé comme une fille toute son enfance.
Je voulais pas.
Ne rentrons pas dans le débat entre les gènes et l'environnement.
Oui, surtout qu'il n'y a pas vraiment de débat.
Bref. La série est vraiment, moi, au début, j'ai vraiment eu des réactions épidermiques parce que Versailles, d'un point de vue historique, est un moment de l'histoire qui me fascine. Pour moi, le comportement des Français envers notre président tient plus de Versailles que de Napoléon. On a encore un côté très royaliste et très pouvoir absolu par rapport à notre président. Et Versailles et le roi Soleil, le pouvoir absolu qui a été instauré à cette époque-là, prend racine dans des vrais problèmes historiques de l'époque et politiques de l'époque. Le roi avait une position très faible et Louis XIV a beaucoup souffert dans son enfance du trop plein de pouvoir des nobles sur la France par rapport au roi. Et Versailles n'était pas qu'une qu'un délire de roi. Il y avait une vraie fonction politique à Versailles. C'était de maintenir, et c'est bien retranscrit, je trouve, dans la série, de maintenir par un rituel la noblesse, finalement, sous un couvercle. Et de prendre le contrôle sur la France. Après, au niveau, bon, il y a beaucoup d'historiens qui vont dire les robes étaient pas exactement comme ça, les perruques étaient beaucoup plus crades, c'est beaucoup trop esthétisant. Oui, ça, la série a beaucoup sacrifié pour avoir du succès et plaire au plus grand nombre. C'est une série de divertissement, quoi, voilà.
En même temps, avec un générique techno, ils annoncent la couleur, quoi. C'est pas
exactement. Ils le disent. Alors, ils avaient quand même un conseiller historique sur la série et qui dit la chose suivante. C'est une fiction historique. Les scénaristes ont joué avec la chronologie, avec les faits. Mais c'est un très bon divertissement. J'espère que les gens, en le regardant, vont se rendre compte que ce n'est pas la réalité, mais que ça va leur donner envie d'en savoir plus. Et moi, c'est ce que j'aime dans ce type de série, c'est que moi, je dévore des pages Wikipédia en regardant cette série. Pour voir les débats d'historiens sur Chevalier et a-t-il vraiment manipulé le duc d'Orléans, machin, et de voir justement que l'histoire n'est pas quelque chose de figé, que les historiens débattent encore de certains faits. Et voilà, c'est pour moi la fonction de ce type de série, c'est pas de vous endormir avec une histoire de Versailles poussiéreuse avec du Lully, mais de vous donner envie d'en savoir plus sur cette période complètement fascinante de l'histoire de France. Je vous conseille et je termine là-dessus, si vous voulez voir, parce qu'on dit souvent que les Français, on n'arrive pas à faire notre histoire, moi, il y a un de mes films préférés qui s'appelle Le Roi danse, avec Magimel qui joue Louis XIV. Allez voir aussi ce film, vous verrez que oui, on arrive à faire des bons films historiques en France sur notre propre histoire. J'aimerais qu'en série on arrive à cette même qualité. Je donne un petit pitch, il y a un scénariste qui nous écoute, prenez l'histoire de François Ier, on ferait une série géniale sur François Ier. Franchement, c'est une histoire aussi complètement fascinante, aussi fascinante que l'histoire de Louis XIV et de Versailles. Voilà.
Merci beaucoup. Écoute, tu m'as donné envie en tout cas, donc mission accomplie. Bravo Jérôme. Timo, à ton tour de nous donner envie.
Moi, ça va être un peu une petite historienne, enfin une apprentie historienne dont je vais vous parler. C'est Lara Croft, Rise of the Tomb Raider. Et il est sorti en novembre, il me semble, sur Xbox. C'était une exclue pour
le 13 novembre, je crois, ouais.
Et je n'ai pas d'Xbox One, donc j'étais vénère parce que j'ai adoré le premier. Et ça y est, là, depuis le début de la semaine, il est dispo.
Au moment où on enregistre, donc ça fait un bon moment.
Au moment où on enregistre, début février, l'ai. Je l'ai enfin sur PC et je l'attendais, ce jeu, depuis la fin du premier, parce que c'était vraiment un énorme coup de cœur à cette époque-là.
Ah ouais, alors donne-moi envie, parce que moi je l'ai et je l'ai laissé de côté. J'avais adoré le premier et le deuxième, en fait, je l'ai trouvé un peu trop, que c'était un peu trop une répétition du premier. Donc dis-moi ce qui t'a plu, toi, dans celui-là.
Alors, je l'ai pas fini, j'ai pas encore tout fait. Moi, ce que j'ai adoré pour le moment, c'est le fait de retrouver cette Lara qu'on a découverte. Donc, c'est le deuxième épisode du préquel, un truc un peu what the fuck, mais bon. on retrouve Jonah, on retrouve certaines personnes, et là, on retrouve une Lara qui a grandi, qui est bien plus adulte et qui va aller sur les traces de son père, qui a été totalement discrédité par tous ses collègues et tout, et qui est tombé un peu dans la folie suite à la mort de sa femme, et qui faisait des recherches sur le mythe de l'immortalité et tout. Et le fait de reprendre cette Lara qui est encore, on se dit bon, elle a vécu un truc pourri, elle va forcément s'en sortir mieux maintenant et tout. Là, on la retrouve, elle, en mode j'ai vécu une histoire de merde, et là, j'ai encore un autre truc de merde à gérer qui est totalement différent. C'est faut que je redonne une crédibilité à mon nom. Et on va la suivre un peu partout. Là, au début, elle est en train d'escalader des montagnes pour rechercher la cité perdue de Kitej, etc., etc. Et moi, ce que j'ai adoré, bon, j'ai jamais joué à Uncharted ou The Last of Us, mais c'est un peu le même type de jeu. Et donc moi, mon seul référentiel là-dedans, c'était le premier Tomb Raider, donc le, enfin le le Tomb Raider, le premier du préquel.
Du reboot, donc celui d'il y a trois ans, quoi.
Du reboot, ouais. Exactement. C'était donc j'ai pas fait d'autres jeux comme ça entre temps, et le fait de retrouver tout le système du feu de camp, du piolet, etc., toute cette truc là avec des petits mouvements en plus par-ci par-là, ça m'a de suite replongé dedans, et à toutes les phases, enfin il y a une espèce de truc assez surprenant avec ce jeu, c'est que t'as le côté survival, donc il faut que je survive dans un milieu super hostile, avec en plus de ça un petit mélange de soif de connaissance, et tu vas découvrir des petits tombeaux, des trucs du genre, avec plein de petites anecdotes historiques, vraies ou pas, c'est ça je sais pas trop encore, mais ils arrivent à construire une petite mythologie à eux-mêmes, et après tu vas passer par des phases de stress ultime, donc t'étais dans ton tombeau tranquille, tu fais deux trois trucs, et t'as genre un ours qui te court après, et là t'es en mode flippance ultime, tu cours avec quelques QTE tranquilles comme il faut, c'est peut-être
un bon équilibre,
pas original,
ouais.
Par rapport au premier, où le peu que j'y ai joué, j'ai pas retrouvé de trucs super original à ce niveau-là, mais c'est vraiment le fait de retrouver cette Lara Croft que je trouve vraiment exceptionnelle, de reprendre, de construire, de continuer sa mythologie à elle, de voir où est-ce que ça va l'amener et tout, un peu comme si je prenais un autre jeu Arkham pour la saga Batman, quoi. En gros, c'est un peu ce truc-là qui moi me botte bien à chaque fois, quoi.
Bah écoute, c'est vrai que Tomb Raider, c'est marrant parce que tu évoquais Uncharted, et Uncharted a été complètement inspiré des premiers Tomb Raider, ouais. Et maintenant ce reboot de Tomb Raider s'inspire complètement d'Uncharted, donc la boucle est bouclée. Mais ouais, peut-être que je lui ai pas donné sa vraie chance parce que c'était la fin de l'année dernière et il y avait trop de trucs qui se passaient en même temps. Peut-être qu'il faudrait que j'y retourne quand même sur ce Tomb Raider. J'avais tellement aimé le premier. Et là, c'est un petit peu plus de la même chose. Mais je sais pas, je vais encore lui redonner sa chance quand même, parce que le personnage de Lara en plus est vraiment cool. Et c'est vrai que il y a un excellent équilibre, t'as raison, entre les moments un petit peu plus calmes d'exploration des tombeaux, et puis les moments où tu dois faire du combat, et puis les moments de stealth. Et comment dire, sur la comparaison avec Arkham, j'ai trouvé que chaque épisode d'Arkham, à part Origins, mais apportait des trucs vraiment en plus au gameplay. Et ouais. Là, je trouve que c'est ce qui manque un petit peu à Tomb Raider.
Là, bah ouais, je suis pas allé encore assez loin pour savoir s'il y a vraiment des nouveaux trucs au niveau du gameplay. Mais bon, ça a été compensé par le fait que le jeu est quand même sacrément beau.
Ouais, c'est vrai.
Moi, ma claque de l'année dernière au niveau visuel, c'était Witcher 3. Là, on n'est pas encore au niveau de Witcher 3, mais c'est hyper hyper fouillé, quoi. Quand t'es dans une grotte de glace, mais avec tout le vent, toute la neige qui vole autour de toi et tout, c'est limite magique, quoi. Tu te dis ouais, j'ai froid avec elle, quoi. Ouais. c'est assez cool. Donc c'est vrai. Ils ont peut-être plus compensé sur le côté graphisme et sans doute au niveau de l'histoire que sur le nouveau type de gameplay, parce que pour le moment j'ai pas vu de nouveaux trucs. Je crois qu'il y a peut-être le double saut qui est nouveau,
ouais, mais c'est tout
dès le début, mais mais voilà, c'est vrai que nouveauté gameplay, c'est peut-être un peu léger. C'est peut-être un peu léger.
Bon, donc c'est à recommander plutôt pour les fans, tu dirais,
ouais.
Pour les fans de ce style.
Ah ouais, moi c'est clairement ça, pour les fans du genre à la limite. Je pense qu'il faut quand même avoir fait le premier pour accrocher, mais bon, si vous commencez par celui-là, peut-être que ça vous donnera envie de faire le premier. Ouais. Mais, ouais, c'est je conseille pour les fans du genre.
OK. Vraiment. D'accord, très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Timo. Et du coup, puisque c'était la dernière recommandation de l'épisode, pourquoi n'enchaînes-tu pas avec les endroits où on peut te retrouver sur Internet, par exemple ?
Ben, soyons fous. Donc, on peut me retrouver dans Geek Inc. On tourne en live tous les vendredis soirs sur Twitch. Donc, GL_GeekInc. Vous pouvez me retrouver sur cette même plateforme le jeudi midi de 13h à 14h pour GeekInc Inc. Donc, une émission où j'apprends à dessiner avec vous. J'ai deux, trois petits. Je prends des tutos d'artistes par-ci par-là et puis on fait. On attaque tout ça histoire de progresser, de créer une armée de dessinateurs de fous en France. et ensuite, on peut me retrouver dans Too Many Books, donc un podcast, une chaîne YouTube plutôt, orientée comics, littérature en règle générale, que je présente avec Audrey.
Magnifique. Et sur Twitter, @abrutim.
@abrutim, exactement.
Jérôme.
Eh bien, moi, vous pouvez me retrouver sur la chaîne YouTube Nowtech TV, donc où on fait des tests tech et des dossiers sur la tech. Et vous pouvez me retrouver également tous les matins à 8h pour notre matinale tech, notre revue de presse de la tech dans la joie et la bonne humeur avec une super chatroom. Ça se passe sur Periscope. Il y a un replay aussi sur YouTube hein, si vous ne vous levez pas à 8h, donc vous inquiétez pas. Et tous les matins, voilà, on fait un petit peu une revue de presse de la technologie. Tout ce qui s'est passé d'intéressant pendant la nuit et pendant la journée précédente dans le petit monde de la tech.
Magnifique, merci Jérôme. Pour ma part, c'est @notepatrick sur Twitter et @notepatrick sur Facebook. Et vous pouvez aussi retrouver l'émission avec ses notes et d'autres émissions sur frenchspin.fr. Vous y découvrirez tout plein de choses super sympas. C'est garanti sur facture. Et comme il n'y a pas de facture, c'est garanti tout court. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Positron. Ciao à tous.
Salut tout le monde. We'll be right back.